Le sens des choses.
Stéphanie Bonvicini.
Jacques Attali. Bonjour, nous sommes très heureux avec Jacques Attali de vous retrouver pour cette série d'émissions durant lesquelles, au cœur de l'été et avec nos invités, nous réfléchissons à la question de quoi manger est-il et sera-t-il le nom ? Nous sommes cet après-midi en compagnie du sociologue et philosophe Edgar Morin.
Cher Edgar Morin, c'est un grand plaisir de converser pendant une heure avec vous. C'est un plaisir de parler avec vous d'à peu près n'importe quoi, parce que vous avez travaillé, réfléchi, et vous regardez chaque sujet d'une façon originale et transversale. Nous allons parler de l'alimentation, de l'agriculture, de la façon dont vous voyez tout cela s'inscrire dans votre grand projet de nature, de la nature et d'organisation globale de nos sociétés. Mais d'abord, peut-être peut-on commencer par un rapide survol de votre vie extraordinaire qui a commencé il y a quelques années et qui vous a amené à être un grand résistant dans les années 40, puis ensuite à être un sociologue important qui a travaillé sur d'innombrables sujets et qui, peut-être pourrait-il nous dire, quand a-t-il rencontré l'importance de la nourriture ? Est-ce que c'est dans l'enfance ? Est-ce que c'est un souvenir d'enfance ? Est-ce que c'est une relation particulière avec un paysan ou avec un repas ?
Dans mon enfance, j'avais des allergies et des goûts très vifs. Et peut-être que sans réfléchir à la nourriture, mais aimant beaucoup certains plats, comme les plats d'aubergine par exemple, ce sont des choses que je me préoccupais souvent des repas. Je dois dire que ma famille étant d'origine méditerranéenne, j'avais ce qui aujourd'hui est à la mode, mais enfin, c'était la cuisine méditerranéenne à base d'huile d'olive, qui était la nourriture quotidienne. Mais la préoccupation de la nourriture est arrivée sous l'occupation, parce que très rapidement, après les premiers mois qui ont suivi le désastre militaire, tout s'est raréfié du point de vue alimentaire. Et là, pendant quelques années, et surtout étudiants, on allait où les restaurants d'étudiants, on les quittait encore affamés. Donc à ce moment-là, c'était une préoccupation. Et puis, je dois dire que une fois que j'étais avec quelques responsabilités dans la résistance, après 43-44, et à Paris, nous fréquentions des restaurants aussi dits de marché noir, en fait, où l'on trouvait des choses. Et c'était à ce moment-là que moi qui n'aimais pas tout ce qui était gras, je me suis mis à aimer le gras du jambon, je me suis mis à adorer l'andouillette, j'ai découvert des plats comme ça. Et si vous voulez, j'ai acquis un certain nombre de goûts particuliers. Et je dois dire que à partir de ce moment-là, je me préoccupe toujours de mon alimentation. C'est-à-dire, je veux toujours manger des choses qui me plaisent. Ça, c'est une chose très importante parce que je suis de ceux qui éprouvent un grand plaisir, presque une volupté, à manger ce qu'ils aiment, bien entendu. Donc, c'est une préoccupation. Pour moi, la cuisine, la gastronomie, l'œnologie, le vin, les boissons, tout ça, ça fait partie des poésies de l'existence. Et donc, je reste très attaché à ces questions, y compris sous ces aspects les plus contemporains.
Est-ce que ce que vous avez connu pendant la guerre, qui vous a amené à manger des choses qui, à l'époque, étaient ressenties comme des produits vulgaires, je pense au rutabaga, ou oui. des choses comme cela. Est-ce que vous en gardez un très mauvais souvenir ou est-ce que vous êtes fait partie de ceux qui aujourd'hui disent que c'était des produits formidables et qu'il faudrait les consommer de nouveau ?
Écoutez, sans les trouver formidables, je ne les trouvais pas du tout infectes. Je les prenais topinambour et rutabaga. C'était des choses qui étaient très acceptables.
Et donc, vous avez vécu cette période, en tout cas au début de la guerre, avec un sentiment de faim.
Oui.
Oui. Et qui vous a amené progressivement à basculer dans la recherche du gras. Mais est-ce qu'après la guerre, vous êtes revenu à une plus grande austérité ou vous êtes resté dans cette addiction à la nourriture plus abondante ?
Eh bien, vous savez, je suis un alternatif. C'est-à-dire que autant j'aime les repas entre amis, ce qu'on appelle les gueuletons, qui souvent se traduisent par une crise de foie, parce que je suis devenu un hépatiquement faible après une hépatite. Et alors, donc, ceci me contraint à une relative sobriété. Mais, en fait, ce que j'appelle sobriété me donne des grands plaisirs aussi gustatifs. Pourquoi ? Parce que j'aime de plus en plus les céréales, le boulgour, ou la céréale qu'on prend maintenant comme le quinoa, les légumineuses. Pour moi, l'idéal, je dirais, c'est la brusquette, c'est-à-dire un pain légèrement grillé sur lequel je frotte de l'ail, un peu de tomate, de l'huile d'olive. Et même, je dirais, pour moi, tout ce qui est donc à base de blé, ce pain, la tomate, l'huile d'olive, le fromage de brebis, les aubergines, tout ça, pour moi, c'est la volupté suprême. Et je crois que, par exemple, il y a un traiteur, non loin de chez moi, italien, de Sorrento, qui s'appelle Sorrentino, et qui a une façon de faire l'aubergine à la parmigiana, et il n'est pas de semaine où j'en prenne une ou deux. Enfin, si vous voulez, pour moi, même de plus en plus, j'ai beaucoup plus de plaisir dans ces choses-là que dans les repas, de plaisir gastronomique, dans des repas, par exemple, où le menu est déjà tout fait. Repas officiel ou autre. Je suis très sélectif pour la nourriture, tout en étant très éclectique, c'est-à-dire je n'ai aucun dégoût, je pense. Il y a des choses qui ne m'intéressent pas tellement, comme les bulots, par exemple. Il y a des choses que j'adore, comme les oursins. voilà, un peu.
On a fait un peu le tour, pour commencer, de vos goûts, mais ça renvoie à deux choses, si je peux me permettre. D'abord, beaucoup retrouvent vos goûts d'enfance, donc est-ce que ce n'est pas l'enfance que vous mangez en mangeant ? Et donc un retour à une sorte de nostalgie, l'éternelle Madeleine. Et puis l'huile d'olive, dont on a dit souvent qu'elle était une source de longévité, qui chez vous en serait une preuve particulière.
Oui, écoutez, bien sûr, par exemple, ce sont les plats d'enfance qui me sont les plus chers. Il y avait ce que dans ma famille, ce qu'on appelle en Grèce la tiropita, ou en Turquie la borek, c'est-à-dire des sortes de galettes farcies de fromage de brebis, j'en fais tard.
Votre famille est originaire de Salonique, n'est-ce pas ?
Voilà, ma famille est d'origine de Salonique, et c'est une famille judéo-espagnole où il y a des plats aussi bien d'origine espagnole que d'origine balkanique. Bon. Et c'est cette nourriture que, d'ailleurs, quand j'allais à Athènes et que je retrouvais mes amis dans une taverne, j'étais après malade pendant 3 jours, pas tellement j'adorais tous ces mésés, toutes ces choses-là, qui sont le houmous, par exemple, cette purée de pois chiche avec le résidu de la farine de sésame, ce qu'on appelle bêtement le caviar d'aubergine. Enfin, beaucoup de choses comme ça, ce sont des choses que j'adore. Donc, si vous voulez, c'est incontestablement la nourriture de mes enfances, dont je trouve aussi des cousins en Amérique latine, parce que ce qu'on appelle l'empanada, c'est l'équivalent de la borek ottomane, ou de, en bien plus gros, du briouat marocain, du brick tunisien. Ces choses de pâtes feuilletées ou non, farcies de fromage ou d'épinards, pour moi, ça m'enchante parce que c'est vrai, c'est mon enfance.
Edgar Morin, pourquoi est-ce que les rituels alimentaires, qu'ils soient quotidiens ou qu'ils soient festifs, paraissent plus importants pour les pays latins ou pour les Français ?
Je pense qu'il y a peut-être un reste plus profond d'attachement à des cultures traditionnelles d'origine rurale qui fait que en France, à la différence d'en Angleterre, où en Angleterre, il y a une coupure, disons, avec de nourriture venant de l'agriculture, puisqu'il y a eu la suppression de l'agriculture, c'est maintenant qu'il y a une gastronomie anglaise, mais avec des plats pakistanais, chinois ou autres. Mais je veux dire qu'en France, moi, je crois que c'est la force des cultures provinciales qui elles-mêmes ont conflué sur Paris et le fait que la grande cuisine elle-même, les cuisiniers de roi, qui avec la République sont devenus les grands restaurateurs, tout ça a donné quelque chose, qui, à mon avis, qui existe aussi en Italie, en Espagne, en Grèce, mais avec cette sorte de diversité, d'originalité. Et comme en France, en plus, il y a un nombre incroyable de camemberts et de vins, etc., une sorte de réputation du bien manger venu en France, mais je crois que je le trouve la même chose dans des pays voisins.
Vous avez dit de façon incidente qu'il n'y a pas de gastronomie en Grande-Bretagne parce que la Grande-Bretagne s'est coupée très tôt de son agriculture. C'est la politique des enclosures auxquelles
voilà,
vous faites référence à la fin au milieu du XVIIIe siècle. Donc pour vous, l'accélération du processus de migration rurale est un facteur de destruction des traditions agroalimentaires.
Et d'un deuxième facteur peut-être aussi, qui est le puritanisme anglais. Et de même que cette sorte de puritanisme s'est traduit vestimentaire vers les tenues sombres, presque de clergyman, ça s'est traduit sans doute sur le plan alimentaire par quelque chose de culte d'une nourriture très rituel et très simple.
Donc vous pourriez presque, si je poursuis, une distinction entre ceux pour qui, comme par exemple on pourrait dire, en vous suivant de façon caricaturale, le monde protestant, dans lequel il ne faut pas se faire plaisir d'aucune façon, même pas en mangeant, et le monde latin, où il faut se faire plaisir de toutes les façons possibles, y compris en mangeant. Vous iriez jusqu'à dire ça ?
Un peu ça, oui, sans vouloir trop exagérer, puisque dans le fond, on trouve des choses esquisses dans le monde scandinave, c'est-à-dire enfin, ce qui était auparavant le saumon fumé, les harengs, etc. Évidemment, tous ces produits commencent à être très pollués. Mais je dirais que c'est assez monotone. Et en France, il y a cette diversité extraordinaire. Et justement, ce qui est intéressant, c'est qu'en France, bien que l'agriculture ait été un peu ravagée, et c'était au profit de la monoculture industrielle, il y a eu une résistance très forte de l'artisanat à l'industrialisation. D'abord, on le voit pour le vin. Finalement, ce ne sont pas les grandes marques qui se sont imposées, mais ça continue à être des propriétés moyennes et qui font des vins de qualité. Je veux dire que le vin est de meilleure qualité maintenant qu'avant la guerre d'Algérie où il y avait dominé sur le marché du vin de marque, qui était un mélange de vin d'Algérie très fort et de vin de piquette du Languedoc. Il y a un progrès. Et je pense qu'il y a une résistance gastronomique qui vient à la fois de restaurateurs, qui vient à la fois des familles, qui vient à la fois des consommateurs, ce qui fait que aussi en France, on continue à avoir un sens de ce qu'on appelle la cuisine du marché, la cuisine du terroir, etc.
Ce que vous avez décrit de la diversité française et de sa spécificité en matière alimentaire, qu'est-ce que ça vous dit de ce qu'est la France et de ce qu'est son identité au regard de sa nourriture ?
Edgar Morin.
Bien, vous savez, il y a cette chose qui est occultée dans nos manuels comme dans nos propos politiques, c'est que la France est par sa nature multiculturelle. C'est-à-dire que la France, c'est l'union de Bretons, d'Alsaciens, de peuples totalement hétérogènes les uns aux autres. Et il a fallu plusieurs siècles, pas seulement d'intégration, mais parfois dure de conquête, comme la croisade des Alpichois, mais pour que, et la République, pour que, effectivement, cette France devienne une unité forte, mais une unité dans cette diversité. Et je crois que cette diversité, bien que la Troisième République ait voulu un peu l'inhiber dans les langages, en supprimant les langues régionales comme des vulgaires dialectes, parce que maintenant on est revenu, mais elle a été respectée. Elle a été respectée, notamment sur le plan de l'agriculture, sur le plan de la culture, etc., de l'accent, etc. Donc, si vous voulez, moi je dis que ça traduit cette réalité. La France est une république une et multiculturelle. Et je ne comprends pas pourquoi ce mot multiculturel fait tellement peur. Le Brésil ou le Maroc ont adopté dans leur constitution le fait qu'ils ont leur unité est aussi multiculturelle. Et ça n'a provoqué aucune désintégration. Ce n'est pas du tout ce qu'on appelle le communautarisme fermé sur soi. C'est la reconnaissance de cette diversité. Donc, si vous voulez, je pense que la gastronomie peut nous aider à comprendre cette multiculturalité.
Alors, avant de revenir sur ce que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire les dangers de l'évolution générale, comment inscririez-vous le fait de se nourrir dans l'unité de la nature ? Et autrement dit, est-ce que la nourriture est faite pour l'homme ou est-ce que l'homme est fait pour la nourriture ? Comment est-ce que ceci forme un tout ?
Oui, bien sûr. Je veux dire que, bien entendu, il faut mettre en boucle les deux propositions. Il faut manger pour vivre, mais d'une petite façon, il faut aussi vivre pour manger. C'est-à-dire que le manger n'est plus seulement un moyen pour survivre. Le manger agrémenté de saveurs exquises, de sauces, de grillades, tout ce que vous voulez, d'ingrédients délicieux. Et le manger devient aussi une fin. Une fin, mais c'est une fin qui est en même temps un moyen. Et bien entendu, qui n'est pas la fin principale de nos vies. Mais c'est aussi une fin. Donc il faut aussi vivre pour manger, c'est-à-dire ne pas se priver des plaisirs de la nourriture. Mais je le répète, on peut trouver ces plaisirs dans la sobriété, avec des produits fondamentaux qui nous donnent vraiment un plaisir incroyable.
Le repas était, pendant des siècles sans doute, le lieu principal de la rencontre de la famille, avec parfois les enfants qui y étaient, les enfants qui n'y étaient pas, ça dépend des cultures. Est-ce que le repas vous paraît un élément central de la fabrication de la société, puisque c'est là où ont lieu une partie de la transmission, le seul moment de rencontre souvent entre les parents et les enfants, ou est-ce que le repas vous paraît anecdotique ?
Non, le repas est capital parce que, je dirais que tout ce qui est commensalité est quelque chose qui resserre des liens, qui entretient et resserre des liens. Et il est certain que aujourd'hui, dans les couples qui travaillent, il y a tendance à la disparition du repas du déjeuner, mais le dîner subsiste. Et je crois que c'est une chose très importante, ou du moins qu'il faut tenter une politique de civilisation doit tenter de sauvegarder ceci. D'ailleurs, nous savons que la commensalité est quelque chose qui favorise la compréhension, la communication et l'amitié. Du reste, la fonction des repas d'affaires, c'est de servir du plaisir de manger ensemble pour créer un lien psychologique entre les partenaires. Moi, j'ai pratiqué la commensalité et la combibandalité, ce que veut dire boire ensemble, quand, par exemple, j'ai fait mon enquête sur la rumeur d'Orléans,
Rappelez-nous ce qu'était la rumeur d'Orléans, c'est un livre majeur que vous avez écrit, si je me souviens bien, en 1969, partir d'une rumeur qui avait couru que des femmes disparaissaient dans les arrière-boutiques de magasins juifs d'Orléans.
Voilà, de magasins de prêt-à-porter pour jeunes filles. Alors, pour avoir un peu les réactions des victimes de cette rumeur, j'ai organisé un grand repas sociologique collectif de ces commerçants qui avaient été victimes de la rumeur. Et au cours de ce repas, ou à notre faire évidemment un lien, c'est créer une confiance, eh bien, à ce moment-là, j'ai pu bien progresser dans mon enquête. Et donc, je pense que manger ensemble, c'est une chose absolument capitale.
Vous pensez que les psychanalystes devraient manger avec leurs clients?
Sans doute, je pense, plutôt que de les laisser sur un divan, oui.
Alors, Edgar Morin, comment est-ce qu'on pourrait alors restaurer des convivialités?
Eh bien, vous savez, d'abord, il y a une résistance, notamment chez les jeunes, chez les vieux, tendance à se réunir entre amis et faire la fête. Et c'est très fort chez les jeunes, mais ça existe aussi chez les personnes âgées. Et je pense que ça tient à une résistance inconsciente ou semi-consciente à tout ce qui est processus de standardisation de la vie, d'anonymisation des rapports humains. Et là, si vous voulez, nous sommes à un moment assez intéressant de civilisation où les forces, disons, du calcul, de l'anonymat, de la standardisation, de la mécanisation de la vie sont devenues telles qu'elle provoque en réaction la tendance contraire à vouloir s'éclater, à vouloir faire la fête, à faire du rock, à danser, à se rencontrer entre amis, à faire des expériences exotiques, etc. Donc, si vous voulez, moi je pense que cette tendance à la commensalité, elle est en plus encouragée par le retour au goût, c'est-à-dire à la saveur, à la recherche de bonne nourriture, etc., ou de bon bois.
Alors, si on va plus loin, il y a également un retour à créer du lien avec les personnes qui vous nourrissent, avec les personnes à qui vous achetez vos aliments pour cuisiner différemment et créer autour du repas un circuit court qui va de la nourriture que l'on achète jusqu'aux amis qui viennent chez vous.
Bien sûr, et d'ailleurs c'est ça l'avantage aussi bien des marchés que du commerce d'alimentation de proximité tel qu'il existait. C'était l'avantage, c'est qu'il y avait cette communication. Moi je me rappelle, je faisais mon marché aux enfants rouges, je demandais quand je prenais telle taille de poisson, je demandais le temps de cuisson pour ce poisson. Enfin, je demandais pas mal de choses. Autrement dit, il y a un rapport. Et même maintenant, on se rend compte avec des AMAP, par exemple, où des agriculteurs fournissent directement à des consommateurs urbains les produits de leur ferme, il y a ce contact et ce lien qui est rétabli. Du reste aussi, même les médias s'y mettent en multipliant les recettes de cuisine, etc. Même les médias sont entraînés dans cette recherche du bien manger.
Est-ce que cette évolution, pour vous, s'inscrit dans une évolution plus globale de la société où on essaierait de redonner du sens au temps partagé? Alors que pour autant, on peut voir, et vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il y a le temps partagé décroît. Chacun est de plus en plus seul. On mange debout d'un sandwich ou d'un plateau repas sur un coin de son bureau. Et même le dîner le soir est plus ou moins partagé. Et puis, tous les autres rituels de repas. Je pense aux repas de funérailles qui ont à peu près disparu. Restent les repas de noces, mais beaucoup de repas de famille se sont peut-être espacés. Que pensez-vous de ça? Est-ce que le repas reste et redevient ou n'est pas le lieu de la socialité future?
C'est-à-dire, à mon avis, il faut faire un effort d'éducation, un effort pour accélérer un mouvement qui se fait de lui-même, mais qui est assez lent. Ce qui me semble, regardez, ce qui est assez important. Prenez cette nourriture qu'on appelle bio. De plus en plus, dans le monde des consommateurs, donc des citoyens, est arrivée l'idée que la bonne santé se gagne pas tant avec des médicaments à cause d'une nouvelle méfiance qui naît à l'égard de produits pharmaceutiques dont on sait que certains sont nocifs, et donc l'idée que la santé est liée à l'alimentation, à ce qu'on mange. Et alors, à partir de ce moment-là, une attention est portée et il se crée une clientèle du bio. Et ce mouvement qui est inconscient, qui n'a pas aucun chef d'orchestre, a atteint un certain seuil qui fait que aujourd'hui, les grandes surfaces ont toutes un rayon bio, que Carrefour et Leclerc ont fait des gigantesques publicités pour dire qu'ils vont éliminer les produits de conserve contenant tel ou tel édulcorant ou produit de conservation nocif. Donc, si vous voulez, quelque chose se développe, une prise de conscience dans la société, et je crois que cette prise de conscience elle-même va être liée au fait que si on mange bien, il faut manger dans des bonnes conditions. Et alors là, je pense à l'association créée par Pertini, Slow Food, à laquelle j'ai le plaisir d'adhérer.
Et une association italienne.
Voilà, elle est fondée dans la Savoie italienne, près de Turin. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que l'idée de manger lentement signifie effectivement manger ensemble et signifie aussi manger des bons produits. Et ce Slow Food, non seulement fait une propagande dans ce sens-là, mais a créé des congrès où arrivent des représentants de peuples de toute la Terre, des Mongols, des Esquimaux, etc., chacun apportant sa gastronomie propre, expliquant les qualités de sa propre gastronomie. Donc, si vous voulez, il y a le retour à la qualité et le retour à la convivialité et le retour au temps. Ce sont des choses désormais étroitement associées les unes aux autres.
D'un moment à l'autre, nous allons, après cette pause, revenir à ce concept de retour que vous avez évoqué et savoir si l'avenir est un retour sur le passé ou si ça s'inscrit dans une évolution vers quelque chose qu'on pourrait encore appeler progrès.
La ville écrase la forêt pour y installer son décor sans songer au bruit que ferait le chant de tous les oiseaux morts. On cimente le paysage, on bétonne les horizons, nous voici arrivés à l'âge de raison. Le petit sentier de l'école est une autoroute à six voies qui mène à la piste d'envol où les Boeing hurlent de joie. Il y a du goudron sur la plage et du gasoil sur le gazon, nous voici arrivés à l'âge de raison. On a piétiné les ballades et les refrains de nos printemps. On en a fait des marmelades pour des vieillards de 17 ans qui font sauter les pucelages avec des trognons de chansons. Nous voici arrivés à l'âge de raison. Les décibels nous assassinent, les scooters nous bouffent le cœur et la télé dans les cuisines nous explique notre bonheur. Quand on veut rêver, les nuages ont la forme de champignons. Nous voici arrivés à l'âge de raison. Rien à faire, petit bonhomme, mets ta tête sous l'oreiller. Grand-mère a bouffé une pomme et c'est à nous de la payer. Tiens-toi tranquille, reste sage, enfoui au creux de ta maison. Et laisse passer l'âge de raison.
Francis Blanche, l'âge de raison.
Magnifique cette chanson. Oui. Nous dit tellement de choses. Et Francis Blanche, on ne l'attendait pas là.
C'est un grand Francis Blanche, oublié, mais.
Oui, un grand auteur, grand penseur, oui. Grand comédien. Vous avez parlé du retour à plusieurs reprises. Et dans cette série d'émissions, on réfléchit beaucoup à cette question de savoir si le meilleur avenir possible serait un retour au passé. Ce qui est vrai d'ailleurs dans beaucoup de domaines. Tout à l'heure, vous avez évoqué à juste titre l'évolution brutale anglaise qui a coupé à l'Angleterre de ses racines rurales, alors que d'ailleurs elle s'était elle-même coupée aussi de ses racines maritimes. Pour n'être pas du tout une nation maritime, en tout cas culturellement, même si elle est évidemment une grande nation maritime d'un point de vue géopolitique. Est-ce que vous pensez que notre avenir ne peut être réussi que si on revient en arrière sur ces réformes, c'est-à-dire sur les réformes anglaises qui ont accéléré la migration rurale et qui ont fini par se traduire par la même chose en France et en Europe du Sud, ou qui aux États-Unis ont été immédiates puisqu'il n'y avait pas de paysannerie aux États-Unis, donc ils n'ont pas eu besoin de faire la migration rurale puisqu'ils n'ont pas eu d'agriculture au départ. Autrement dit, est-ce que la société qu'on peut souhaiter pour demain est une société qui retournerait dans le domaine alimentaire et peut-être dans d'autres domaines vers un modèle ancien, à vivre avec non pas 500 millions d'habitants, mais 9 milliards d'habitants, ou autre chose.
Edgar Morin ?
Moi, je pense que le chemin de l'avenir passe par des détours par le passé. Ça ne veut pas dire le retour au passé, ça veut dire des détours. En 1964, j'ai fait une conférence en Italie qui s'appelait néo-ruralisme, néo-archaïsme, néo-tribalisme, c'est-à-dire toute une série de phénomènes où je voyais qu'on s'intéressait de plus en plus au néo-naturisme, pardon, au retour à la nature, aux nourritures traditionnelles.
Vous étiez ainsi un des premiers à penser à l'écologie.
Avant même l'écologie, justement. En 64, j'ai découvert le problème écologique, mais j'ai senti les signes faibles qui annonçaient, en quelque sorte, l'écologie et ce besoin de nature renouvelée. Donc, moi, je pense que, de toute façon, il y aura aujourd'hui des néo-ruraux, parce que les paysans traditionnels ont disparu au profit d'agriculteurs qui sont presque des techniciens. Et ceux-ci doivent refaire place non pas à des paysans traditionnels, mais à des néo-ruraux, parfois venus des villes, qui combinent aussi bien les pratiques saines, disons, de l'élimination de produits nocifs, que les connaissances scientifiques d'agronomie. Ça me semble un courant d'ailleurs qui existe, hein, c'est-à-dire beaucoup de jeunes urbains tendent aussi à chercher ce qu'ils ont cherché après 68, mais le courant n'est pas mort. Et je pense aussi que si vous considérez la tendance actuelle à l'urbanisation effrénée dans le monde, si c'est continu et que 80% de l'humanité soit urbaine, ça veut dire qu'elle sera condamnée à manger, à s'alimenter de choses purement industrialisées et malsaines. Donc, je pense que la progression des villes, la politique des villes nécessite une politique des campagnes. Et la politique des campagnes est favorisée par le fait que non seulement il y a ces néo-ruraux, non seulement parce que le télétravail permettra de plus en plus de travailler hors d'un centre urbain, parce que de plus en plus des retraités jeunes sont capables de s'intéresser, de jardiner et par là même de produire une partie de leur propre alimentation. Et donc, si vous voulez, moi je crois que l'avenir, et surtout avec la prise de conscience écologique, montre par un certain retour à des choses naturelles, mais qui ne peut pas être, disons, ça n'a rien à voir avec le retour à la terre de Pétain. Disons, à l'époque de Vichy, ça signifie quoi ? Ça signifie la fatalité de la domination allemande est telle que nous devons renoncer à être une nation industrielle et que nous devons redevenir une nation rurale avec tout ce que ça comporte de religieux, de traditionnalistes, de conservateurs. Donc aujourd'hui, c'est au contraire un élément progressiste, je mets ce mot entre guillemets, que de considérer ce type de retour à la terre qui est un retour à la santé.
Donc ce n'est pas un retour à la terre, mais c'est un voyage vers la terre,
oui.
Qui serait un peu une terre promise, une terre nouvelle, une terre à conquérir.
Oui, mais écoutez, quand on pense à tous ces villages morts qui n'ont qu'une vie éphémère par les résidences secondaires au moment de vacances, on a l'impression qu'il faut leur redonner vie. Et nous avons des cas en France où, grâce à la recolonisation par des jeunes venus des villes, les villages reprennent vie. Reprendre vie, c'est pas seulement avoir leur nouveau agriculteur bio, c'est d'ouvrir une boulangerie, d'ouvrir un bistrot, parce qu'un village sans bistrot et sans boulangerie et sans épicerie est mort. Donc, si vous voulez, il faut que et en plus, dans notre pays, on se rend compte que la mort des villages et la dépopulation rurale entraînent la disparition des bureaux de poste, la disparition des centres de santé, ce qui fait que les malheureuses personnes, dès qu'elles sont malades, dès qu'elles ont des problèmes, elles doivent se déplacer en voiture ou louer des taxis pour aller à distance. Il faut redonner la vie à la province, à la campagne, aux petites villes, aux petites agglomérations. C'est un impératif politique aujourd'hui.
Est-ce que ça veut dire que les agriculteurs, vous disiez il y a un instant que les agriculteurs sont aujourd'hui des techniciens, est-ce que les agriculteurs doivent redevenir des paysans ?
Non, ça, ils seront des hybrides parce qu'ils auront acquis une culture que viennent de scientifiques, parce qu'il y a quand même des éléments scientifiques, agronomiques, il y a quand même des choses intéressantes qui sont faites. Par exemple, tout ce qui est la lutte contre des parasites, non pas par des pesticides, mais en faisant des colonies d'antiparasites, c'est-à-dire d'espèces antagonistes qui vont bouffer ces parasites, il y a beaucoup de choses, si vous voulez, que la connaissance scientifique va apporter. Et je pense que ça sera quelque chose de nouveau, qui sera une synthèse rurale de l'ancien paysan et du nouveau technocrate, mais en même temps, qui sera animé par un souci de retrouver le bien-vivre, parce que je pense aussi que ça va être une des choses importantes dans notre civilisation, s'il n'y a pas d'effondrement général, bien sûr, c'est l'importance du bien-vivre. Ceux qui font ce mouvement, et je vois aussi bien, prenez les deux écologistes bien connus en France, comme Pierre Rabhi ou Philippe Desbrosses, l'un et l'autre sont l'apôtre du bien-vivre, l'un à travers la sobriété heureuse, l'autre à travers la connaissance de légumes, de fruits, de produits aujourd'hui disparus, parce que là aussi on a fait disparaître des espèces de qualité au profit d'espèces uniquement de valeur quantitative.
Y compris d'ailleurs les espèces qu'on utilisait pendant la guerre.
Exactement.
C'est un retour à la terre pour une modernité alimentaire.
Bien entendu, c'est un retour à la terre et un retour, je dirais, pas seulement à la campagne, mais aussi aux petites agglomérations, aux villes moyennes, etc. Je pense que, d'ailleurs, à Paris, la tendance à quitter Paris est devenue maintenant plus importante que la tendance à immigrer à Paris.
Voilà.
Oui, et je crois que c'est courant qu'il faut encourager. D'ailleurs, moi-même, si je le peux, je compte dès l'année prochaine m'installer dans le Midi près d'Uzès.
Et vous habitez actuellement à Paris.
Oui.
Vous connaissez ce concept de rurbains, qui sont ceux qu'on désigne comme ruraux et urbains, mais qui sont considérés non pas comme une sorte d'idéal, mais au contraire comme une situation particulièrement défavorisée, parce qu'ils habitent dans des endroits de mauvaise qualité en termes de services, en particulier de transport, travaillent en général dans le centre-ville, dont des heures de trajet dans les deux sens. Oui. C'est pas ça auquel vous pensez en termes de retour.
Non.
Donc le monde urbain, qui est aujourd'hui une sorte d'excroissance des villes, avec le pire des villes et pas le meilleur de la campagne, c'est pas le modèle dont vous parlez, j'imagine.
Pas du tout, puisque, disons, actuellement, c'est pour avoir tout trouvé un logement à prix qui leur convienne, à des bas prix qui leur conviennent, que beaucoup de gens s'installent de plus en plus loin de la métropole et sont par là condamnés à emprunter des transports pour aller travailler au centre-ville. Non, peut-être que ces gens-là, peut-être par leur famille, peuvent cultiver un jardinet, mais ce n'est que secondaire. Non, pas du tout. Ce que je pense, c'est que désormais, on peut avoir tous les avantages de la civilisation urbaine et que c'est agréable à ce moment-là de faire de temps en temps un voyage touristique dans la grande ville. Voilà, il faut inverser la chose.
Edgar Morin, vous évoquez cette nouvelle civilisation qui est en train de naître, une civilisation du bien-vivre, et vous évoquez la création de maisons de la solidarité. Qu'est-ce qu'il y aurait à l'intérieur de ces maisons de solidarité?
Vous savez, l'idée m'est venue d'une expérience que j'avais faite en Californie, à San Diego. À San Diego, des bénévoles, médecins et non-médecins, avaient créé un crisis center, un centre de crise, pour venir en aide aux détresses, notamment beaucoup de jeunes victimes de overdose de drogue et qui, évidemment, risquaient, s'ils allaient à l'hôpital, de faire connaître leur identité et d'être passibles de sanctions légales. Donc, pour venir en aide à des détresses ponctuelles, etc. Et alors, c'est là-dessus que j'ai eu le projet, déjà dans les années 80, de proposer ces maisons de la solidarité dans les grandes villes, ou même les très grandes villes dans les quartiers. Alors, mon idée, c'est que ce que ni le SAMU qui vient en aide à des gens malades, cardiaques, etc., ni les pompiers, ni police secours, ne viennent en aide à des détresses de solitude, d'abandon, de malheur. Oui, des gens peuvent appeler SOS Amitié, mais ils le font très très peu. Et j'ai vu aussi le cas, j'ai lu le cas d'un petit vieux qui habitait dans le 19e arrondissement, qui était mort depuis pas mal d'années, mais ses voisins ne s'en étaient pas rendus compte. Sa boîte aux lettres continuait à être remplie de prospectus et il recevait les factures de gaz, d'électricité et d'impôts. Et c'est au bout de quelques années qu'alerté par une odeur nauséabonde, les voisins ont appelé les flics qui se sont rendus compte de la grotte. Donc voilà quelqu'un qui peut être seul, qui peut crever sans que ça fasse la moindre vaguelette. Et donc je me dis, il y a tellement de détresse aujourd'hui. Des gens, pas seulement des vieux qui sont seuls, des femmes abandonnées, des hommes aussi abandonnés, des jeunes paumés de tout ça. Et je pense que ce serait d'où des brigades mobiles, d'où des gens pourraient aller à l'aide de ces gens-là, à leur secours. Et à mon avis, ça devrait être complémentaire, d'un service civique de solidarité. Là aussi, aujourd'hui, il y a du... Moi, je suis partisan de le rendre rapidement obligatoire chez les jeunes pour qu'ils intègrent dans leur expérience la solidarité. Moi, je connais assez de jeunes gens qui, ayant comme ça, par goût de l'aventure, participé à des séjours dans des pays africains pour Médecins sans frontières, dans des conditions terribles, ils ont découvert de tels malheurs, de telles détresses, ça les a transformés. Et je pense que chacun porte en soi une pulsion solidaire qui dort. Et elle se réveille, évidemment, si vous avez... D'ailleurs, on l'a très bien vu, quand il y a eu le tremblement de terre de Mexico, des gens se sont mobilisés pour aider les victimes. On l'a très bien vu qu'après les attentats de Paris. La solidarité se réveille après des désastres et des catastrophes. Mais elle devrait se réveiller... non pas seulement après des désastres collectifs, mais des désastres individuels. Et moi, je pense que les maisons de la solidarité devraient être une chose essentielle. Alors, quand j'ai fait cette proposition, c'était les années 80, j'en ai parlé à Chaban-Delmas, maire de Bordeaux. Oh, quelle belle idée, puis il a complètement oublié. J'en ai parlé à Rocard, qui était Premier ministre, il m'a dit, ah oui, fais-moi un rapport là-dessus, et puis ça s'est noyé. Donc, je continue à promouvoir cette idée.
Ce que vous venez de décrire s'inscrit dans une recherche de solidarité, de proximité. Mais si on en revient à notre sujet alimentaire, il y a une autre forme de solidarité sur laquelle j'aurais bien aimé vous entendre. C'est celle qui touche autour de la solidarité spécifiquement alimentaire, c'est-à-dire la banque alimentaire, les restos du cœur, et tout ce qui pourrait se développer sur le même sujet à l'échelle planétaire. Est-ce que vous pensez que c'est un élément de réponse ou juste un ersatz de passage en attendant mieux ?
Non, c'est utile. C'est utile, il y a ce que fait le parlementaire qui s'appelle Darambache qui a pu obtenir une action contre le gaspillage alimentaire. Il faudrait obtenir des restaurants qu'ils distribuent le soir, une fois qu'ils vont fermer et qu'ils n'ont plus de clients, la nourriture qui sinon va se gâter le lendemain, etc. Je pense qu'il y a aussi la lutte contre le gaspillage alimentaire est une chose très importante. Et je pense que tous les efforts de solidarité alimentaire pour les migrants, pour les réfugiés, etc., c'est un minimum vital qui devrait être, à mon avis, institutionnalisé. Il y a là aussi, nous sommes arrivés à une époque où il n'y a pas seulement les détresses auxquelles je pensais quand j'écrivais ce texte pour les maisons de la solidarité, mais cet afflux de migrants qui vient de famine, de guerre, de perturbations climatiques, tout ça nécessite vraiment une action humaine, proprement humaine, ou la part alimentaire et la part quasi biologique.
Gone. Look at them.
Federica Stahl, The World to Come.
Votre travail porte aussi sur la condition humaine dans son ensemble. Comment vous voyez l'enjeu alimentaire dans les grandes questions que l'humanité va rencontrer dans les décennies qui viennent? Est-ce que c'est un élément pour vous de cauchemar à cause des écarts qui se creusent? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez le sentiment qu'on va vers une solution globale, pas seulement dans le modèle que vous avez esquissé tout à l'heure pour la France?
Edgar Morin.
Bon, tout d'abord, il faut constater la mainmise de la spéculation financière sur les grandes récoltes, que ce soit de riz, de céréales, etc., qui ont intérêt, disons, en période d'abondance, de les garder en silo, de façon à profiter de la hausse des prix, disons. Et d'autre part, il y a cette tendance, pas seulement des pays occidentaux, mais aussi de la Chine, de la Corée du Sud, du Japon, à acheter en Afrique, en soudoyant les gouvernements des terres, pour y faire de la monoculture en faveur de leur propre importation. Et du coup, ils privent ces pays d'autonomie vivrière. Moi, je pense qu'un apéritif pour ces pays, les pays dépendants, les pays d'Afrique essentiellement, mais aussi les pays d'Asie, est une action qui permet de sauvegarder leur autonomie vivrière. Au Maroc, par exemple, où le fait que l'on peut trouver le blé français qui bénéficie de subventions à l'exportation, donc moins cher, comme prix de revient, que le blé marocain, a tué le blé marocain. Donc, un élément capital qui concerne le pain. Donc, si vous voulez, il y a d'énormes problèmes à traiter. Donc, ces problèmes à traiter sont des problèmes politiques et économiques. Mais ce ne sont peut-être pas tellement des problèmes qui relèvent de l'agriculture elle-même, parce que il y a aujourd'hui la possibilité de pouvoir nourrir l'humanité qui est atteint un chiffre plus ou moins stationnaire s'il n'y a pas les guerres et les famines qu'elles provoquent et tous ces phénomènes dont j'ai parlé. Donc, à mon avis, ce qui manque, c'est une instance internationale dotée de pouvoir, comme aurait dû l'être l'ONU, pour pouvoir imposer une politique qui permette de casser l'emprise financière sur les récoltes, qui permette de modifier la mainmise sur des terres arables par des pays importateurs de terres, de pays qui entourent leur autonomie vivrière. Il y a toute une révolution de la pensée politique, et c'est ça qui manque aujourd'hui. Voilà. On est toujours le jour, et ce sont les forces économiques de profit qui dominent ce problème vital.
Donc pour vous, la propriété de la terre est un élément essentiel dans la réappropriation par chaque pays des conditions de son bien-être.
Edgar Morin.
Je crois, oui.
Comment inscrivez-vous tout cela dans votre réflexion sur les limites écologiques de la nature? Autrement dit, est-ce que l'humanité aura toujours les moyens de se nourrir, ou est-ce que, pour prendre l'exemple de la rareté de l'eau, est-ce qu'elle sera obligée, ou volontairement, ou de façon contrainte, à aller vers une évolution végétarienne pour économiser massivement l'eau que nous consommons?
Je crois que on peut quand même orienter, pour des raisons de santé publique, vers une diminution de la consommation de viande, surtout dans les pays occidentaux, voire même certains pays d'Amérique latine comme l'Argentine, qui sont des gros mangeurs de viande. Là, je crois qu'on peut faire des choses sur un mode progressif. Et puis, regardez aujourd'hui la pampa argentine, elle est maintenant totalement industrialisée pour le soja, etc. Et donc, si vous voulez, il y a eu des détournements de finalités agricoles pour le profit. Donc, si vous voulez, là, il faut repenser. Moi, je crois que les vraies limites, ce sont les limites à la croissance. La croissance économique, industrielle, etc., ne peut pas aller au-delà d'un certain seuil, sinon en provoquant des contre-effets néfastes. Ça, c'est toute la conception de Ivan Illich, c'est véritablement prophétique, qui dit que dès qu'un certain moyen pour arriver à une fin est utilisé de façon quantitative et dépasse un certain seuil, il produit un contre-effet. Ainsi, par exemple, on produit des automobiles dans les villes pour aller plus vite, et on produit tellement de voitures qu'on crée des embouteillages et on va plus lentement. Donc, cette idée-là, aujourd'hui, c'est tout le productivisme de notre civilisation qui doit être régulé. Mais là, je ne suis pas du tout de ceux qui sont dans la pensée binaire et qui opposent la décroissance à la croissance. Moi, je pense qu'il faut faire le bilan de ce qui doit croître, et c'est évidemment l'agriculture biologique qui doit croître, l'agriculture fermière qui doit croître, l'économie de solidarité qui doit croître, l'économie de biens non jetables mais réparables qui doit croître, et l'économie de biens futiles, de biens à valeur purement imaginaire ou mythologique, des sodas, des boissons gazeuses, des produits de beauté, etc. Enfin, qui ne servent à rien sinon à donner l'illusion. Tout ça doit décroître. Je pense qu'une politique doit aujourd'hui mettre sur la table qu'est-ce qui doit croître, qu'est-ce qui doit décroître, et aller dans les deux sens.
Alors, Edgar Morin, la réforme de la consommation, ce serait guider la consommation. Finalement, il faudrait faire une éducation de la consommation.
Pas la guider. Éduquer, oui, pas la guider. Parce que quand même, la consommation doit être libre. Bien entendu, elle est guidée quand vous avez une réclame, une baisse de prix, une réduction, etc. Mais je crois que aujourd'hui, la force politico-économique qui était agissante au XXe siècle jusqu'à un certain moment historique, ça a été celle des producteurs. Parce que c'était les ouvriers, ils faisaient grève, enfin, c'était eux, ils pouvaient agir sur l'économie d'un pays. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Et d'abord parce que les travailleurs industriels sont segmentés ethniquement, politiquement. Voilà. Mais c'est les consommateurs qui deviennent très puissants, parce que la conscience des consommateurs peut progressivement bouleverser tout le paysage alimentaire actuel. Et c'est ça, à mon avis, c'est le citoyen consommateur. Alors, bien entendu, nous avons des écoles. Et dans ces écoles, on devrait enseigner le bien vivre, le bien manger, le bien se nourrir. Et bien entendu, on devrait jouer un rôle éducateur dans ce domaine-là. J'ajoute que, d'ailleurs c'est assez intéressant, que le ministre Hulot a prévu des états généraux de l'alimentation très prochainement, parce que c'est un point littéralement crucial. Mais moi je crois qu'une organisation de consommateurs pourrait se créer et se fortifier. Vous avez des embryons aujourd'hui avec une revue comme Que Choisir ou autre, mais indépendante de l'État. Ce n'est pas à l'État de guider les consommateurs. Moi, je vois aujourd'hui pour pas mal de produits, qu'ils soient des produits médicaux, des produits de santé ou des produits alimentaires, vous avez des éléments écrits ou Internet qui vous donnent des informations utiles. Et aujourd'hui, cette information se développe avec parfois une grande incohérence, parce que vous savez, les médias s'étant emparés de la chose, les uns disent manger des brocolis, c'est très bon contre le cancer, les autres disent surtout mangez pas de brocolis parce que ça a des effets néfastes sur les reins. Enfin, il y a une sorte de délire. D'ailleurs, même deux grands cancérologues ont publié deux livres antinomiques sur la question des causes du cancer. Mais oui, c'est un côté un peu diafoiresque. Bon, mais cela étant dit, à travers toutes ces incohérences, etc., une conscience collective de consommateurs est en train de se former, et cela est sain.
Eh bien, ça m'amène à la dernière question que nous essayons de poser à chacun de nos invités en 2 ou 3 minutes. Si vous aviez un conseil à donner à ceux qui nous écoutent pour bien vivre, bien manger et avoir le meilleur temps possible de leur vie grâce à leur relation à la nourriture, ce serait quoi ?
Edgar Morin.
Eh bien, pratiquer la commensalité, pratiquer les repas en commun avec les gens que vous aimez ou à qui vous désiriez avoir des relations d'amitié ou d'amour. Faites ceci et liez donc votre affectivité, vos sentiments, votre qualité poétique de la vie à la pratique du boire, à la pratique du manger. Voilà, le manger n'est pas une chose à isoler, c'est une chose qui fait partie d'un ensemble. Ou bien c'est un ensemble qui est fait pour survivre, et c'est purement prosaïque, parce qu'à ce moment-là, vivre pour survivre, c'est la prose de la vie. Ou bien manger, c'est une chose qui aide à vivre, et vivre, c'est la poésie de la vie.
Merci Edgar Morin. Nous allons donc essayer de passer de la prose de la nourriture à la poésie de l'alimentation.
Merci Edgar Morin.
Merci à vous.
C'était Le sens des choses de Jacques Attali et Stéphanie Bonvicini, à la réalisation Doria Zénine, à la technique cet après-midi Philippe Thibault. Je vous invite à vous rendre sur notre site internet franceculture.fr où vous retrouverez toutes les informations liées à notre invité. Vous pourrez notamment réécouter et podcaster l'ensemble des émissions de notre série. Et pour ceux qui souhaiteraient nous écrire, voici une adresse email j@attali.com. Merci de votre fidélité. Très belle fin de journée à l'écoute de France Culture.